Nous débutons bien entendu avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une période d'incertitude s'ouvre en Suède après les législatives d'hier qui ont confirmé l'ancrage de l'extrême droite et accouché d'une équation à plusieurs inconnus. Qui va gouverner et avec qui? Les blocs de gauche et de centre droite sont à quasi égalité à plus de 40%. L'extrême droite frôle, elle, les 18% mais n'arrive pas à se hisser aux estimations des sondages. Nous serons au QG des partisans de l'extrême droite, les démocrates de Suède, à Stockholm dans un instant.
Et puis près de 2500 personnes ont manifesté hier soir dans l'est de l'Allemagne, à l'appel de l'extrême droite à la suite de la mort d'un jeune homme dans une bagarre avec deux Afghans, une mobilisation à Köthen qui fait craindre aux autorités une répétition de Chemnitz.
À la une en France, 4 candidats en marche pour le perchoir, 4 candidats pour la présidence de l'Assemblée nationale pour remplacer François de Rugy. La rentrée à l'université de Paris-Nanterre sera-t-elle aussi agitée qu'au printemps dernier contre la plateforme Parcoursup? Reportage dans un instant.
Et puis la question du jour, Catherine, dans une dizaine de minutes, 6 naissances sur 10 hors mariage en France. Pourquoi notre pays fait-il figure d'exception? Je poserai la question à Laurent Toulmont, démographe à l'INED.
Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion prônée hier soir par l'extrême droite à Köthen, ville de 26 000 habitants en ex-RDA où 2500 personnes ont manifesté après la mort d'un jeune homme de 22 ans. Crise cardiaque suite à une bagarre avec deux Afghans, une mobilisation qui fait craindre aux autorités une répétition de Chemnitz, autre ville de l'est de l'Allemagne qui vit depuis 2 semaines au rythme des manifestations de l'extrême droite et des contre-manifestations à gauche. Depuis cette fois le meurtre d'un Allemand de 35 ans pour lequel 2 réfugiés ont été placés en détention provisoire. Hier soir, la manifestation à Köthen s'est rapidement tendue, Ludovic Piétenu.
Les habitants déposent tour à tour au pied d'un arbre des cierges, des petites bougies ou quelques fleurs. Il y a là des jeunes amis du défunt ou bien ce collègue de l'atelier pour personnes handicapées où il travaillait. Il explique à deux voisines que Marcus râlait parfois au sujet des étrangers. L'une d'elles évoque les Afghans suspectés, l'autre répond.
C'est vraiment triste, mais surtout ça va continuer et ça va recommencer. Tous les réfugiés doivent partir. Tous.
Le matin à la messe, il y avait 300 personnes. Hier soir, 2500. Comme à Chemnitz il y a 2 semaines, les habitants ont reçu le soutien massif du parti d'extrême droite AFD. Comme à Chemnitz, beaucoup viennent parfois de loin. Il y a des éléments plus radicaux, quelques néo-nazis. Le frère du défunt les fréquentait. Celui qui prend la parole en premier en est un. Le visage entièrement couvert de tatouages. Cette foule très diverse l'écoute et l'applaudit. Non, il n'y a pas de haine, pas de néo-nazis. Ce sont des familles qui ne sortent plus dans les rues. Son ton est agressif, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Il parle de guerre raciale contre les Allemands et interpelle la foule. Voulez-vous continuer à être des moutons ou ne faut-il pas se transformer en loup pour les déchiqueter? En parlant des étrangers, nouveau fait divers en Allemagne et nouvelle tribune pour ces radicaux. Le discours patriote mais surtout xénophobe et incitant à la haine ne semble choquer personne parmi les habitants de cette ville de campagne dont certains reprennent en cœur. Les étrangers criminels dehors et Merkel aussi.
Ludovic Piétenu à Köthen en Allemagne de l'Est pour France Culture où 2500 personnes donc ont répondu hier soir à l'appel de l'extrême droite face à eux 200 manifestants d'extrême gauche. La Suède, elle, a finalement résisté à la vague populiste qui déferle sur une partie de l'Europe. Après les législatives hier, les démocrates de Suède, le parti d'extrême droite, continue certes de progresser avec près de 18% des voix. C'est 5 points de plus qu'en 2014, mais la formation anti-migrants et eurosceptique n'a finalement pas gagné son pari. Dépasser les blocs traditionnels, 40,6% des voix pour le bloc de gauche, dans un mouchoir de poche, avec le bloc de centre-droit à 40,1% des suffrages, selon des résultats encore provisoires. Les négociations pour former une coalition pourraient prendre plusieurs semaines. La formation d'extrême droite veut désormais jouer les faiseurs de roi et revendique son influence face au bloc de droite et de gauche pour tenter de faire oublier sa contre-performance relative. Le reportage de Marie-Pierre Véraud au quartier général des démocrates de Suède, auprès des partisans donc de l'extrême droite à Stockholm.
Ce n'est pas l'ambiance des grands soirs au quartier général des démocrates de Suède. Au fur et à mesure que les résultats s'affinent, les visages perdent leur sourire. Tous attendent Jimmy, le patron du parti. Son arrivée aux alentours de 23h réveille un peu l'atmosphère. Ils disent à la télé que ce n'est pas facile de savoir qui a gagné, lance-t-il. Eh bien moi je vais vous le dire, ce sont les démocrates de Suède. Le propos peut stupéfier quand le parti a raté la deuxième marche. Il reste troisième, mais c'est vrai, progresse de 5 points quand les formations classiques perdent encore du terrain. Les sociodémocrates au pouvoir font même le plus mauvais score de leur histoire. Jimmy Åkesson, lui, appelle à la démission du Premier ministre, tend la main au conservateur, veut monnayer son influence. Son numéro 2, Mathias Carlsson, qui préside le groupe au Parlement, fait contre mauvaise fortune bon cœur.
Bien sûr que je suis heureux. On est les vainqueurs de cette élection. On a amélioré notre score de 5%. On écrit l'histoire politique en Suède. Parce que normalement, la vie politique suédoise est très ennuyeuse. Il y a peu de différences d'une élection à l'autre. Et maintenant, nous avons un troisième bloc au Parlement. On n'avait jamais vu ça.
Un paysage fragmenté, deux blocs, droite et gauche, à égalité. Les tractations pour un nouveau gouvernement ne font que commencer.
Marie-Pierre Véro, envoyée spéciale de France Culture à Stockholm. Et en France, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se sont chacun, pour des raisons opposées, félicités du résultat des législatives en Suède. Victoire contre l'extrême droite, notre allié suédois dans la coalition européenne. Maintenant, le peuple progresse et atteint 10%. A salué le chef de file de la France Insoumise sur Twitter. La présidente du Rassemblement National s'est, elle, réjouie d'une mauvaise soirée pour l'Union européenne. La révolution démocratique en Europe est en cours, a tweeté Marine Le Pen, tandis que La République En Marche a estimé que le score de l'extrême droite tirait, je cite, la sonnette d'alarme face à la vague nationaliste. Une nouvelle journée de frappes syriennes et russes sur Idlib, bombardements intensifs hier du régime de Bachar al-Assad et de ses alliés pour reprendre le dernier bastion rebelle et djihadiste du pays où vivent 3 millions de civils. Échec des négociations diplomatiques vendredi dernier. Depuis, les armes ont parlé et 2 enfants au moins ont été tués, 9 autres blessés, Aurélien Colli.
Quelques heures de répit hier, puis les bombardements russes et syriens ont repris. Frappes aériennes et largage de barils d'explosifs sur des positions tenues par des rebelles ou des djihadistes, mais aussi sur des hôpitaux ou des infrastructures civiles, selon des ONG sur le terrain. Une stratégie qui rappelle celle mise en œuvre dans d'autres zones reconquises par le régime, la Ghouta ou Dera notamment. Une stratégie de la terreur qui fait surtout fuir des milliers de civils, déjà déplacés par les précédentes reconquêtes de Damas, mais cette fois sans échappatoire. À l'ouest, au sud et à l'est de la province, les troupes du régime syrien cadenassent avec l'appui des alliés russes et avec les milices chiites proches de l'Iran. Au nord, la Turquie a fermé sa frontière, elle qui redoute un nouveau flot de réfugiés et soutient surtout certains groupes rebelles. La Turquie, dont la Russie, maître du jeu, ne semble toutefois pas vouloir se couper définitivement en appuyant dès à présent l'offensive de grande envergure que Damas attend.
3 millions de personnes vivent à Idlib dans la crainte de bombardements quotidiens, crainte de catastrophe humanitaire, souligne le médecin Raphaël Pitti.
Comment évacuer 3 millions de personnes? Est-ce que ce sont les Turcs qui vont les prendre en charge? Les Turcs s'y refusent et c'est ce qui s'est passé lors des négociations en Iran. Les Turcs ne veulent pas être face à une catastrophe humanitaire où 2,5 millions de personnes vont se retrouver dans leur pays. Ils n'ont pas les moyens. Déjà, ils vivent une situation de crise économique. Les Turcs, ils ont aussi 2,5 millions de réfugiés dans leur pays. Et bien entendu, au pire, c'est que nous voyons recommencer la crise humanitaire que nous avons vue en 2016, où ces 2 millions de personnes risquent de vouloir venir en Europe. Et donc, il faut impérativement empêcher une attaque, empêcher cette violence sur la zone d'Idlib, essayer de trouver une solution politique.
Le docteur Raphaël Pitti, joint par Lucas Caltritti. Et l'armée russe a accusé de son côté l'aviation américaine d'avoir largué hier des bombes au phosphore dans la province de Deir ez-Zor à l'est de la Syrie. Des accusations démenties par le Pentagone.
7h08 sur France Culture, c'est la suite du journal de Catherine Dutu. La police a arrêté hier soir un homme soupçonné d'avoir blessé au couteau 7 personnes à Paris.
Dont 4 grièvement dans le 19e arrondissement de la capitale. À ce stade, rien n'indique qu'il pourrait s'agir d'une attaque terroriste, estime une source judiciaire. L'assaillant, qui serait d'origine afghane, a agressé dans la rue des passants qui lui étaient inconnus. Au printemps dernier, c'était l'un des épicentres de la contestation étudiante contre la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. L'université de Nanterre fait sa rentrée aujourd'hui. 34 000 étudiants, c'est l'une des plus grandes facultés d'Île-de-France. Elle a été bloquée d'avril à juin dernier par les opposants à la plateforme Parcoursup. Dans quel état d'esprit aujourd'hui va se faire la rentrée alors que la polémique Parcoursup continue? Le reportage d'Alexis Morel.
1 million d'euros de dégâts, plus de 2 mois de blocage, le souvenir du printemps est dans toutes les têtes à Nanterre. Et le président de l'université, Jean-François Balaudet, ne veut surtout pas le revivre en cette rentrée.
La communauté universitaire a été très éprouvée par les événements du printemps. Je pense pouvoir dire que la très grande majorité a envie d'avoir une année universitaire normale.
Alors le mouvement anti-Parcoursup peut-il reprendre? Pour Jean-François Balaudet, rien ne le justifie. Seule une cinquantaine de cas problématiques liés à Parcoursup sont remontés à l'administration. L'UNEF, le syndicat étudiant, n'a pas du tout les mêmes chiffres et parle de centaines de jeunes qui ne trouvent pas de place à Nanterre.
Bonjour à tous et à toutes. Se battre pour l'inscription de tous les étudiants qui sont refusés.
Son représentant Victor Mendès fait la tournée des amphis pour mobiliser. Pour lui, le mouvement doit reprendre.
Cette bataille, elle n'est pas finie. C'est-à-dire, le printemps, c'était qu'un avant-goût de la mobilisation. On pense que ce qu'on a connu, c'est-à-dire un mouvement de grève illimité dans les universités, c'est exactement ce qu'il faut refaire à cette année scolaire.
Et l'UNEF compte sur la prochaine journée de mobilisation interprofessionnelle, le 9 octobre, pour relancer le mouvement à Nanterre et ailleurs.
Déjà des remous au sein du gouvernement remanié. La nouvelle ministre des Sports, l'ex-nageuse Roxana Maracineanu, a dénoncé hier la suppression brutale de 1600 postes d'ici 2022 dans son ministère, soit la moitié des postes appelés à disparaître selon un document interne. Une lettre plafond sortie dans la presse vendredi dernier. Matignon tente de déminer le sujet en parlant de meilleure organisation, de déconcentration, alors que la France doit organiser l'Euro de handball féminin, puis la Coupe du Monde de foot féminin, la Coupe du Monde de rugby en Ensuite, en 2023, les Jeux Olympiques en 2024. Dans un contexte aussi où le budget du ministère des Sports a baissé de 5% l'an dernier, Roxana Maracineanu a rendez-vous aujourd'hui avec le Premier ministre Édouard Philippe pour, je cite, « nous en sortir par le haut le mieux possible ». Ils sont quatre en marche pour le perchoir, quatre prétendants pour la présidence de l'Assemblée nationale pour succéder à François de Rugy et tenir la barre en cette rentrée compliquée pour l'exécutif. Quatre prétendants, Barbara Pompili, la députée de l'Isère Sandra Motin, ainsi que le député du Tarn Philippe Folliot, ex-UDI, et un favori, Richard Ferrand. Les députés de La République En Marche choisissent aujourd'hui leur candidat au perchoir de l'Assemblée. Le temps de ce lundi 17 septembre, la grisaille matinale va rapidement laisser place au soleil. Quelques nuages cet après-midi sur les reliefs, des averses localement. Les températures sont comprises ce matin entre 10 et 17 degrés en général du nord au sud, jusqu'à 22 près de la Méditerranée. Cet après-midi, il fera entre 25 et 31 degrés en général, toujours du nord au sud, un peu plus frais dans les régions proches de la Manche, avec là entre 20 et 23 degrés. Guillaume Herner.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Bon réveil à tous, il est 7h12 sur France Culture.